Et le spectacle continue. Après la démission de Lecornu, après 14 heures de gouvernement lundi matin, seulement 6 heures en enlevant la nuit, son espèce de prorogation par Macron pour négocier durant 48 heures, son échec, son retrait et l'annonce d'un nouveau délai de 48 heures pour nommer un nouveau Premier ministre, nous arrivons ce soir à un blocage total. Toujours pas de Premier ministre, encore moins de gouvernement, des appels à la démission d'Emmanuel Macron qui se multiplient et, en arrière-plan, un projet de budget censé être déposé lundi prochain, dernier délai. La tension monte autour d'un président absolu qui ne veut rien lâcher de son pouvoir. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 10 octobre 2025, il est 21h32. Bienvenue dans cette émission qui se fait sur une situation politique française qui serait assez désespérante si nous n'étions pas historionomes et si nous ne pouvions pas nous douter que les choses iraient dans ce sens. Puisque ce que je disais hier soir aux compagnons dans le Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez en faire partie et bénéficier de ce genre d'intervention. Il n'est pas du tout impossible qu'on soit d'ores et déjà, si on tient pour vrai, ça peut toujours discuter, mais enfin si on tient pour vrai, jusqu'ici c'est pas mal vérifié en dépit de l'anomalie Bayrou, la réalité de la loi Loc périodique sur, en tout cas son applicabilité à la question des premiers ministres. Il n'est pas impossible qu'on soit déjà arrivé, après un gouvernement qui a duré, une demi-journée, qu'on soit arrivé au moment où, en fait, il est devenu totalement impossible de désigner un gouvernement viable. Ce qui n'empêche pas nécessairement que soit nommé un Premier ministre, puisqu'un Premier ministre, ce n'est pas un gouvernement. Si Emmanuel Macron, demain, désigne un Premier ministre, les oppositions ne pourront rien faire, ne pourront pas censurer, etc., tant qu'il n'aura pas nommé un gouvernement, naturellement. C'est à ce moment-là que Lecornu est tombé. Lecornu, il est resté pendant un mois, certes, mais enfin, moi, ça compte pas, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement, il ne pouvait pas être censuré, etc. Donc forcément, il était. Alors, Emmanuel Macron pourrait essayer de gagner encore du temps en désignant un Premier ministre qui ne désignerait pas de gouvernement, mais là, ça finirait par devenir quand même problématique. Mais on va peut-être s'acheminer vers quelque chose comme ça. En tout cas, on nous a vendu toute la journée diverses théories. Là, depuis deux jours, on nous en a vendu d'autres. Alors, il y a plein de noms qui sont passés à nouveau. Les noms traditionnels, Borloo, Cazeneuve, l'idée d'un gouvernement technique. Maintenant, j'ai vu qu'il y a le nom de Darmanin qui sort. Ce qui est totalement hallucinant, enfin, je veux dire, mais tous les noms sont hallucinants d'ailleurs, quand vous y pensez. Lecornu 2, bon, ça c'était une grosse blague, surtout après l'exfiltration de Lecornu qu'on fait à mon dernier live spécial. L'hypothèse Cazeneuve, c'est aussi n'importe quoi, parce qu'on dit quelqu'un qui pourrait plaire à la gauche. Je suis désolé, Cazeneuve, il est plus du tout considéré comme étant à gauche par la gauche aujourd'hui. Il n'y a que la droite qui considère que Cazeneuve est un mec de gauche. C'est plus du tout le cas, quoi. Hein? C'est comme Valls. La gauche ne considère plus que Valls est un type de gauche. Ce n'est pas vrai. Et le problème de... Pour séduire la gauche, vous devez prendre quelqu'un que la gauche estime être de gauche. Si vous prenez quelqu'un que la gauche estime être de droite ou estime être macroniste, ça ne fonctionne pas, naturellement. Hein? Quant à Darmanin, l'hypothèse est également ambitieuse, parce que si ça permettrait sans doute de calmer les Républicains, c'est la quasi-assurance d'une censure de la part du PS, pour le coup. Et comme Marine Le Pen, de l'autre côté, a dit que de toute façon, elle censurerait tout, il n'y aurait aucun avantage à prendre un type particulièrement droitier. Donc tous les calculs qui sont mentionnés par la presse, par les médias, paraissent totalement absurdes. Et en réalité, moi, j'ai le sentiment à ce stade-là qu'on arrive au bout du calcul. Véritablement. J'étais en train d'écouter Marine Tondelier, là, qui racontait un petit peu plus en détail... En détail, la réunion. Elle disait des choses intéressantes, hein, notamment sur la façon dont. Je crois que c'est Édouard Philippe qui lui a souligné qu'il n'y avait plus de socle commun, qu'en gros leur participation à eux, elle n'était pas assurée. Il y a un communiqué qui est sorti, alors qu'il y avait un premier truc qui était une émanation, semble-t-il, du cercle autour d'Édouard Philippe qui venait confirmer un petit peu ce qui était dit sur la position d'Horizon, à savoir que désormais c'est la démission d'Emmanuel Macron. Et semble-t-il, l'entourage d'Édouard Philippe avait l'air de dire que de toute façon, même un macroniste, désormais, il pourrait censurer. En tout cas, il participerait pas, même si c'était un macroniste. Et puis finalement, là, ils ont fait un communiqué officiel du Parti Horizon disant que leur participation dépendrait de qui était nommé. Alors, je sais pas s'ils ont un espoir qu'Édouard Philippe soit nommé à nouveau, mais. Enfin, véritablement, on sort complètement tout ceci n'a aucun intérêt. Il y a quand même des évolutions qui sont intéressantes, que j'ai également soulignées hier sur le Telegram. La première chose, c'est que vous avez les écologistes qui, depuis hier, en fait, ont rejoint le camp de la démission, dans lequel je tiens qu'il y a déjà Horizon. Donc vous avez les écologistes qui ont rejoint le camp de la démission, puisque dans le sens où ils ont dit, alors c'est de manière indirecte, mais en disant, si on n'a pas un gouvernement de gauche, on appelle à la démission. En fait, c'est ça. Non. Donc gouvernement de gauche ou démission. C'est intéressant parce que le soir, il y a eu un communiqué commun entre les écolos et les socialistes disant qu'ils appelaient un gouvernement de gauche. Donc les socialistes semblent se rapprocher de cette position également. Par ailleurs, le Rassemblement national, lui, ainsi qu'avec lui les alliés de Ciotti, sont de plus en plus toujours pour la dissolution, mais également pour la démission, éventuellement, les deux à la fois. Donc ça commence à faire beaucoup de monde, et on est quasiment à une majorité du Parlement qui, en tout cas, n'est pas hostile à la démission. Si on faisait un sondage, ça serait le groupe des tout à fait d'accord et plutôt d'accord, quoi, en fait, c'est ça. Qui est désormais majoritaire dans le pays et dans le Parlement, hein, la volonté. Parce que je rappelle, dans le pays, les gens, c'est très majoritairement pour la démission de Macron. D'ailleurs, c'est un truc qu'Édouard Philippe a, semble-t-il, dit à Emmanuel Macron, pas la question de la démission, puisqu'apparemment, il ne t'a pas parlé. Hein, apparemment, il a un petit peu manqué de courage là-dessus. Ça aurait été marrant, je pense, de savoir ce qui serait sorti du débat si, à l'occasion de ce truc, il avait commencé à dire au président de démissionner. Bon, il a pas eu ce courage. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il lui a dit, semble-t-il, c'est le témoignage de Marine Tondelier, il lui a dit arrêtez de dire que, je sais pas s'il lui a dit comme ça, mais en gros, arrêtez de dire que les 210, là, ou qu'il y a une majorité qui est hostile à la dissolution, mais hostile à tout prix, c'est pas vrai. Il y en a certains d'entre nous qui voudraient éviter qu'il y ait une dissolution, mais on n'est pas prêt à tout accepter pour pas qu'il y ait de dissolution. En gros, c'est ça. Or, l'idée de Macron, semble-t-il, c'était d'imposer, grosso modo, le cornu 2, alors que ça ou dissolution, quoi. Et ce que je trouve intéressant, ce que je soulignais tout à l'heure sur X, c'est que il n'est pas impossible qu'on arrive à un stade où il y en ait une certaine partie qui, effectivement, ait plus peur de la dissolution que de la démission d'Emmanuel Macron. C'est peut-être pour ça qu'ils vont se mettre de plus en plus à la demander, en tout cas. C'est intéressant parce que cette réunion n'a mené nulle part et vraisemblablement ça montrait surtout qu'il y avait d'un côté le président de la République et de l'autre les parlementaires. Plus ou moins hostiles, mais en tout cas il n'y avait plus vraiment de camp présidentiel. Et d'après ce qu'on comprend, parce que Marine Tondelier est pas. Elle balance pas forcément tout, mais il y avait semble-t-il une certaine gêne. On peut imaginer notamment dans le cœur du socle commun, c'est-à-dire en particulier peut-être moins Horizon, ils sont déjà décidés, mais du côté du MoDem et du côté de Renaissance, où à chaque fois il y a toujours un peu l'obéissance au chef qui est un peu automatique, hein, c'est le cerveau reptilien qui parle. Mais en même temps, il y a une gêne parce qu'en fait ils veulent se débarrasser de lui, quoi. Enfin, Attal, c'est clairement, veut se débarrasser de lui. Je fais une petite pause pour vous rappeler que, contrairement à tous les lives qu'il y avait dans la semaine, ce live-ci est le live hebdomadaire. Donc, je ne répondrai aux questions des souscripteurs que dans le live privé qui suivra et je ne répondrai qu'aux questions de dons à la fin de celui-ci. Voilà où on en est. Alors, j'ai pas énormément de choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit pendant le reste de la semaine, évidemment. En revanche, on peut essayer de réfléchir sur qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que, d'une certaine manière, quand je vous avais laissé à la fin du live spécial de mercredi, je vous disais au point où on en est. Alors, à partir du moment où la crise continue de durer, où elle n'est pas solutionnée, la fatigue, on va dire, nerveuse des différents acteurs continue de s'accumuler et des portes se ferment. C'est-à-dire des solutions qui auraient été admissibles à la base ne le sont plus. Typiquement, le cornu. Il n'est pas du tout impossible que si le cornu n'avait pas pris Bruno Le Maire à l'intérieur de son gouvernement, ce qui semble-t-il l'a fait sous la pression directe d'Emmanuel Macron, s'il n'avait pas pris Le Maire, il est tout à fait plausible que ça aurait tenu. En tout cas, que ça aurait tenu le temps que peut-être soit votée une motion de censure, on ne sait pas. Mais ça aurait tenu au moins quelques jours. Le fait que ça saute directement, ça n'a pas réouvert la porte à la solution Le Cornu moins Le Maire. Le Cornu est devenu inadmissible. Alors semble-t-il qu'en plus, lui, de toute façon, il ne voulait pas revenir. Peut-être d'ailleurs qu'il a carrément refusé et que c'est pour ça que Macron se retrouve un peu le bec dans l'eau ce soir. Mais voilà, des portes qui se ferment. Encore une fois, je disais, Édouard Philippe, qui tout d'un coup se met à appeler à démission, on peut penser qu'il a fait le saut dans le vide. Donc il est sur ce registre maintenant. Donc encore une porte qui se ferme, qui est en tout cas qui se limite, qui était la certitude de la collaboration d'Horizon à une tentative de gouvernement. Vous avez ce que je viens de dire sur certains acteurs qui deviennent plus intransigeants, typiquement les écologistes. Le RN aussi est devenu plus intransigeant. Puisque le RN, jusqu'à maintenant, ils ont souvent refusé de censurer. Si Bayrou a pu tenir aussi longtemps, c'est parce que le RN a essayé de se donner une image de sagesse, de refus de la censure, notamment parce que la majorité de l'opinion publique pendant tout le premier semestre était hostile à une dissolution, à une censure. Parce que l'opinion publique, qui est raisonnable, se disait, après une censure, ça va bien se passer. Ils vont être responsables, ils vont réussir à s'arranger, la situation va s'améliorer. Que nenni, la situation ne s'est pas améliorée, donc les gens se sont mis à re-souhaiter la censure. Donc vous voyez à travers ça tous les acteurs qui se radicalisent petit à petit, et le fait qu'ils se radicalisent tous dans le même sens, en fait. Et le même sens, c'est demander la dissolution et ou la démission d'Emmanuel Macron. Et il demande d'autant plus la démission d'Emmanuel Macron qu'Emmanuel Macron refuse la dissolution. Ça, c'est pour le cas du RN. À gauche, ils veulent qu'il démissionne. Mais je pense que ça va être de plus en plus le cas à droite aussi. Je le disais l'autre soir, il y a quand même encore un côté... et Marine Le Pen l'a pas mal formulé dans la journée. Elle a dit LFI veut faire tomber la 5e République, nous, on la défend. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils ont, mais encore une fois, on ne peut pas attendre autre chose de la droite. Traditionnellement, la droite soutient le régime en place et ne veut pas le détruire. Alors, je vois à nouveau des gens qui se plaignent du son. Attendez, parce que je vais regarder si je peux vous l'améliorer. Parce que l'autre jour, Monsieur Portal m'a dit qu'il y avait moyen de le faire. Où était-ce ? Je vais vous faire ça. Alors, c'est là. Alors, le problème... C'est que ça doit être dans les... Ouais, le problème, c'est que l'arborescence qu'il m'a donnée n'est pas... ne me donne pas de truc. C'est quoi ? Général, sortie. Attends. Compresseur. Je n'en ai aucune idée. Avancer peut-être. Ah, ça doit être là. Je vois rien qui correspond à une histoire de... Désolé. Je vais devoir vous demander de monter votre son parce que j'ai une je suis pas capable de trouver ce qu'il faut arranger mieux. Je vais demander à la technique de m'envoyer des messages. Ça sera peut-être plus simple. Sinon, je vais parler plus près du micro et puis voilà, je vais pas m'allonger. Donc, Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Pensez à pousser. Hein, je vous rappelle que c'est très très important pour l'algorithme de pousser. Ça permettra de gagner en visibilité parce qu'encore une fois, la concurrence est rude. Maintenant, si vous voulez, là, qu'est-ce qui va se passer? Sauf à ce que, alors, vraisemblablement, dans la nuit, je pense pas qu'il y aura de. Ça y est, il y a des gens qui se plaignent que c'est trop fort maintenant. Je pense que c'est pour me troller. Il y a des gens. Sans déconner, non, il y a des gens qui. Je ne sais pas si vous n'êtes pas tous d'accord. Je ne pense pas que quelqu'un sera nommé dans la nuit, à moins que. Je pense pas que Emmanuel Macron essaiera de refaire le coup d'envoyer une convocation à 2 h du matin. A priori, on va encore partir pour 2 jours. Enfin, encore en même temps, pendant le week-end, il peut toujours désigner quelqu'un, mais encore une fois, le truc, c'est que je vois pas qui. Je vois pas qui, parce que d'après ce que dit Marine Tondelier, il a l'air d'être persuadé que le socle commun existe toujours. Alors qu'elle, ce dont elle a essayé de le convaincre, ainsi qu'un certain nombre d'autres, c'est que le socle commun n'existe plus, qu'en réalité, il n'y a pas de socle commun, il y a juste des gens qui peuvent vouloir des choses similaires, mais pas en même temps, effectivement. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de Premier ministre qui est possible à ce stade-là, tout simplement. En tout cas pas de gouvernement possible. Je pense que s'il y a un Premier ministre qui est nommé, ça va énerver plus qu'autre chose tous les gens qui ont été réunis. Surtout que je suis à peu près sûr, on connaît la psychologie des gens dans ce genre de circonstances. Marine Tondelier a eu ce mot qui était assez juste, je pense, sidéré en sortant. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Certains étaient énervés. Si vous regardiez Olivier Faure et Boris Vallaud parler, Olivier Faure avait l'air un peu groggy et Vallaud était clairement agacé. Vraisemblablement que dans les réunions qu'ils vont faire entre eux par la suite, je pense que les gens vont. Ils vont se monter le bourrichon, ils vont s'énerver, ils vont repenser à quel point l'autre les a enflés. Ça va les énerver et ça va faire monter la tension. Lundi, il y a la proposition de budget qui va être déposée. Il a été question, et ça c'est ce qu'a dit, comment il s'appelle Panifous, le mec de Liotte, il a été question que peut-être de revenir à un 49-3. Donc à ce moment-là, Marine Tondelier dit en gros c'est le budget Bayrou, alors peut-être un peu retouché par le Cornu, mais c'est vraiment, enfin c'est du cirque, c'est-à-dire c'est la présentation en catastrophe, la copie rendue en catastrophe au dernier moment, la possibilité d'un 49-3 sur le budget. Le truc c'est que pour qu'il y ait un 49-3 sur le budget, il faut qu'il y ait un gouvernement. Ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas déposer de budget sans gouvernement. Et c'est ça aussi qui fait un peu la panique, c'est que est-ce qu'Emmanuel Macron peut nommer un gouvernement avant lundi? Ça va être la grande question. Je pense que c'est véritablement la prochaine grande échéance. Parce que s'il renomme un gouvernement qui dure à nouveau une demi-journée ou un jour et qui saute, ça paraît compliqué quand même. Ça paraît compliqué parce que s'il nomme un gouvernement, il faut qu'il fasse son discours de politique générale. Bon, il faut un temps minimum, il y a quelques jours quand même pour ces 48 heures, déposer une motion de censure et la voter. Donc il y a peut-être une semaine. Est-ce qu'il pourrait passer le budget par 49-3 avant d'être censuré? Ben, même pas, parce que même pas en fait. Même pas puisque la censure, enfin, le 49-3, ça ouvre un délai dans lequel une motion de censure peut être déposée et votée. Et donc, il sera forcément censuré. Donc, je ne vois pas comment ils pourront passer un budget. Ils pourront pas le passer par 49-3. Et pour le faire voter, pour arriver à le faire voter, il faudrait aussi qu'il survive à une motion de censure suffisamment longtemps. Or, encore une fois, moi, à ce stade-là, j'ai le sentiment que les portes se sont fermées. Je vois pas quel Premier ministre il pourrait nommer qui pourrait durer assez longtemps à ce stade. Parce que les gens s'énervent. Véritablement, hein. Je veux dire. Alors, combien de temps il va falloir pour que la pression à la démission se fasse? J'ai essayé de me renseigner un petit peu tout à l'heure sur. Parce que vous savez, l'autre jour, il y a Juan Branco qui a sorti, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a lancé ou s'il a récupéré, l'idée d'une manifestation le 15 octobre, donc c'est mercredi prochain, pour la démission de Macron. Manifestation pour la démission de Macron, exclusivement. Donc c'est intéressant parce que c'est, je me semble-t-il, la première fois qu'il y aurait une manifestation lancée sur ce thème. Manifestation pour la démission de Macron, ça serait intéressant du coup parce que ça serait un mouvement populaire qui demande la démission de Macron. Alors que dans les sondages, on sait déjà que la volonté populaire est là hein, pour que Macron démissionne. Mais il n'y a jamais eu d'expression comme ça dans la rue. Ça pourrait être éventuellement intéressant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit relayé pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être relayé dans les grands médias, et même sur les réseaux sociaux, il n'en est pas tellement question. Il n'était plus question du 10 septembre à l'époque. Alors ça peut monter assez vite, mais pour l'instant, je ne vois rien qui aille dans ce sens. Néanmoins, il peut y avoir une éruption sociale. Enfin, Tiens d'ailleurs, est-ce que... Je pourrais vérifier ça. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il y avait d'autres manifs prévues? Je veux dire, manifs genre comme les grèves, ce qu'il y a eu déjà plusieurs fois. Manifestations prévues. Ouais. Carte et manifestation du 2 octobre, non. Dernières infos actualités. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait manifestation à Paris la semaine du 6 au 12 octobre. Ouais. Non. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres mouvements de manifestation. Ce qui est intéressant parce qu'on est. Vous me direz, les gens retiennent leur souffle. Parce que c'est assez pénible d'avoir des manifestations. En fait, d'ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire que. À ce stade, s'il n'y a plus de gouvernement contre lequel manifester, les manifestations, normalement, devraient être contre Emmanuel Macron. Jusqu'ici, il y échappe. Mais pendant combien de temps? Je veux dire, à ce stade, ma femme m'a dit, t'es sûr que tu vas faire une émission ce soir? Il n'y a pas de Premier ministre. Je dis oui, mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de Premier ministre, au bout de 48 heures encore, c'est en soi une nouvelle. Alors, c'est une nouvelle. Si c'est une nouvelle quand même parce qu'il y avait beaucoup de gens dans les médias etc qui étaient persuadés qu'on aurait effectivement un Premier ministre. Sur BFM TV ils avaient même mis un compte à rebours. D'ailleurs je me demande ce qui s'est passé au moment où le compte à rebours s'est arrêté. J'ai pas pu regarder en direct ça, mais le moment où le compte à rebours est arrivé au bout et qu'il n'y a pas eu de Premier ministre, ça a dû être un peu rigolo quand même. En tout cas ils ont été bien sots d'y croire parce qu'en fait il a déjà fait ça, je veux dire, il fait ça à chaque fois, Emmanuel Macron. Et là, il y a encore des gens qui se plaignent que le son est bas. Je ne sais pas ce que je dois faire parce qu'il y en a qui, dès que je m'approche, les gens hurlent que c'est trop fort. Je sais pas, réglez votre sonotone. Historionomiquement, on va revenir là-dessus parce que c'est ça qui est intéressant. De toute façon, si on reprend les choses, clairement, la situation ne doit pas nous surprendre. Encore une fois. Pourquoi? Parce que le régime du président absolu, c'est exactement ça qui est en question aujourd'hui. C'est qu'on a un président de la République qui refuse de lâcher, en fait, son rôle de gouvernant. Un président 4ème République, à l'ancienne, qui serait vraiment juste dans son rôle d'arbitre, etc., aurait fait d'autres tentatives de désignation de gouvernement. À mon avis, il aurait essayé un Premier ministre de gauche, à un moment donné. Il aurait même fait ça l'année dernière. En se disant que... Mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il a peur que sa réforme, et c'est là qu'est tout le problème, que sa réforme des retraites ne passe pas. Et c'est là, pourquoi c'est là le cœur du problème? C'est parce que, normalement, la réforme des retraites ne devrait pas être la réforme des retraites du président de la République. Ce n'est pas le rôle du président de la République. Une réforme, c'est censé relever d'un Premier ministre. Qu'un Premier ministre s'accroche à sa réforme, d'accord. Qu'un président de la République s'accroche à sa réforme, pas d'accord, c'est pas son rôle. Et donc c'est pour ça que vous arrivez vraiment au bout de la logique du régime. C'est que vous avez un président de la République qui n'est pas dans son rôle. Un président de la République qui essaie de sauver une politique en particulier, qui essaie de sauver un bilan, alors que le Premier président de la République n'est pas censé avoir un bilan. Enfin, son bilan, ça doit être juste d'avoir veillé à la bonne marche des institutions, c'est pas d'avoir gouverné et fait des réformes, c'est pas le boulot du président. Et donc, c'est très exactement le déséquilibre dans lequel on est, et le blocage dans lequel on est, c'est très exactement l'expression des défauts du régime, qui fait du président de la République le chef du gouvernement à la place du Premier ministre. Et au fond, en soi, désigner un Premier ministre n'est qu'un des actes de gouvernement, du vrai chef du gouvernement, qui est le président de la République. Or, ce premier acte, cet acte préalable à toute action de gouvernement subséquente, est devenu impossible, vraisemblablement, pour le président de la République. Je pense qu'on est arrivé au moment où l'équation n'est même plus solvable temporairement. Je suis vraiment convaincu de ça. Je pense que si, par exemple, il prend Lescure pour le nommer à la place de Lecornu, puisque c'était, semble-t-il, son autre choix au moment où c'est finalement Bayrou qui est passé, vraisemblablement, Lescure, il tiendra une semaine. Maximum. Et il sautera. À moins que lui aussi ait décidé de démissionner avant. Je me pose encore la question pourquoi Lecornu a décidé de démissionner. Peut-être parce que, comme il savait que le budget devait être rendu au plus tard le 13 octobre, il a dû se dire, si je me prends une motion de censure, ça sera pas fait. Et donc, autant pas perdre une semaine, je démissionne tout de suite pour essayer d'accélérer sur autre chose. Là, on va carrément dépasser le délai. Ça devient extrêmement problématique. On risque d'avoir des problèmes avec notre dette, ça risque de faire peur à beaucoup de monde. Probablement qu'on va avoir un déficit qui va déraper encore, parce que, comme le dit tout le monde, l'économie est à l'arrêt, plus personne n'ose rien faire. Et ça va finir par peser, encore une fois, sur les résultats, notamment les recettes de TVA à la fin de l'année. Il n'est pas impossible qu'on ait encore un trou de 10-15 milliards. Hein. Je ne sais plus combien ça fait en point de PIB sur le déficit. Ça doit faire. Ça doit faire, je sais plus, 0,3% ou un truc comme ça. Donc je pense qu'on va dépasser les risques de déficit et que ça va arriver très vite. Si mardi on n'a pas réussi à déposer de budget parce que le premier président de la République n'a pas réussi à nommer un gouvernement, on va peut-être commencer à avoir des problèmes avec la dette tout de suite. Ça peut arriver. La question maintenant, c'est de savoir en fait combien de temps ça va durer. Parce que malgré tout, pour nous qui savons que ce système de présidence absolue doit sauter, que c'est dans les choses, si vous voulez, que c'est la règle, que c'est comme ça que ça se passe, que ça ne peut pas tenir. Et vous le savez, parce qu'encore une fois, alors si je reviens sur ce que j'ai dit depuis des années, moi j'ai toujours tenté de vous le modéliser sur la base des exemples qu'on connaissait. Et dans la plupart des exemples qu'on connaissait, ça commençait par un blocage qui finissait par ramener à la convocation d'une assemblée qui avait un pouvoir constituant. Et cette assemblée prend le pouvoir et l'arrache finalement des mains de l'autorité exécutive, que ce soit un roi, un empereur, etc. C'est comme ça que ça se passe en général. Et donc, c'est pour ça que pendant longtemps, moi, je vous ai parlé de probable dénomination d'un congrès, d'un truc. Alors, j'essayais d'imaginer, donc je disais, il y aurait une très forte crise sociale qui générerait ça, etc. Bon. Et que ce serait aussi dans un contexte de dette, de blocage financier de l'État français, etc. Bon. Il y a des éléments qui sont là, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Les choses se font de manière un petit peu différente. C'est vrai que la façon dont ça se déroule, ça ressemble plus sur certains côtés à ce qui s'est passé, en Ukraine en 2014, encore que, il y avait des manifestations qui étaient plus importantes et plus durables. C'est vrai que l'élément manifestation, on a quand même eu encore une fois quelques-unes. Je renvoie au dernier live que j'ai fait sur les sujets. Ça n'a pas été des non-manifestations le 10 septembre, le 18 septembre, etc. Ça a été des vraies manifestations, il y a eu des mobilisations. C'est retombé à partir du 2 octobre, mais c'est aussi parce qu'à partir du moment où il n'y avait pas de Premier ministre à essayer de faire tomber, etc., visiblement, ça. Ça ne, je veux dire, s'il n'y a pas de gouvernement, encore une fois, c'est très difficile de le faire tomber. À chaque fois, ça joue un peu sur soupape. Mais dans les sondages, en revanche, vous voyez monter la colère, vous voyez monter l'hostilité à la présidence d'Emmanuel Macron. Donc, sur les grandes lignes, on est toujours sur ce modèle révolutionnaire. La destitution, pour l'instant, elle n'est pas passée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passera pas dans quelque temps. Il y en a beaucoup, vraisemblablement, qui n'en veulent pas. Chez les gens raisonnables, on va dire, c'est pas exactement la même version qui est promue. Puisque la destitution, c'est le Parlement qui déciderait de mettre le président dehors, et c'est très compliqué à mettre en place, encore une fois. C'est plus compliqué que de réformer la Constitution, je rappelle, hein, parce que pour réformer la Constitution, vous devez faire voter les deux chambres ensemble aux deux tiers, après les avoir fait voter séparément à la majorité. Donc vous les réunissez en congrès, il faut qu'aux deux tiers ils votent pour la modification constitutionnelle. La destitution, il faut que chacune séparément vote deux tiers, ce qui resserre les combinaisons. Vous ne pouvez pas en avoir une qui apporte un peu de surplus à l'autre pour arriver aux deux tiers globaux. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est plus compliqué que de faire une motion, que de faire une modification constitutionnelle, la destitution. Mais le camp raisonnable ne veut pas de destitution. Il veut une démission annoncée avec calendrier, pour pas que ce soit une démission tout de suite. Honnêtement, je ne sais pas quelle forme prendra la démission. À ce stade-là, moi, j'ai toujours, malgré tout, tendance à penser que ça risque d'être quand même plus brutal que ce qu'on imagine, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas partir. Clairement, ce qui ressort de l'explication de Marine Tondelier, qui est le témoignage le plus personnel, on va dire, là-dessus. J'ai écouté un petit peu ce qu'ont dit les autres, ils ont beaucoup parlé du fond. Elle a quand même, je l'ai entendu sur plusieurs plateaux, et donc elle a raconté des choses, voilà, la façon dont les gens se tenaient, dont ils se comportaient, etc. Et véritablement, il a l'air déconnecté de ça. Il est toujours persuadé qu'il a raison. On entend de plus en plus de journalistes qui sortent des témoignages là-dessus, en disant qu'il pense qu'en gros que tous les autres sont des cons, qu'il n'y a que lui qui a raison, etc. Ce qui, d'un point de vue de sa psychologie personnelle, est assez cohérent, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas connu de vrai échec jusqu'à presque 50 ans maintenant. C'est véritablement ça, hein. Le type a eu une veine incroyable dans tout son parcours depuis 30 ans. Et donc, une telle psychologie, lui faire comprendre que maintenant, il a raté, c'est son échec, et maintenant, il ne va faire que rater, parce que c'est terminé, quoi, je pense que c'est à peu près impossible. Donc, c'est le genre de profil qui est tout à fait capable de s'accrocher absolument jusqu'au bout, en pensant que sa bonne étoile va le sauver. Encore une fois. Hein. Vous savez que j'aime pas trop psychologiser de manière générale, enfin, j'aime bien réfléchir avec les modèles sur la psychologie collective, la psychologie individuelle c'est plus fragile, mais il y a quelque chose comme ça dans une figure de ce genre là donc on se retrouve dans une situation encore une fois qui historiquement est cohérente, qu'on a cru, et d'ailleurs dont je me suis demandé moi-même il y a quelques mois si elle n'était pas en train de s'éloigner, hein, je vous en avais parlé avec le fait que peut-être que Macron était en train de lâcher un peu de l'Est, même si on avait dit que vraisemblablement c'était plus fort que lui, il essaierait de reprendre le contrôle. Mais c'est même pas plus fort que lui, c'est plus fort encore une fois que c'est les institutions qui sont plus fortes que lui. C'est-à-dire que c'est la pente naturelle du régime qui cherche à empêcher de... alors attendez, vous êtes en train de me dire que... Non mais c'est ça déconne. Sébastien Lecornu renommé. Non mais... c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est une insulte, quoi. C'est une insulte. Hein. Bon. De toute façon, il était véritablement sous pression pour les raisons budgétaires que j'ai évoquées devant vous. Mais alors, est-ce que nous avons des retours? Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai le télégramme qui bug sur. J'ai été obligé de le regarder sur le téléphone. Est-ce que nous avons des retours? Je sais que notre cher Iruma devait surveiller BFM. Donc, c'est ça, officiel Lecornu par BFM. La vache! C'est dingue, ça. C'est dingue. Lecornu rejoue. Bon, c'est bien. Ça relance de 12. Hein. Ça relance l'esprit de l'émission, puisqu'on a des infos en plus. Alors, est-ce que déjà je peux avoir un retour sur le sondage qui était en train d'être fait? Là, je ne sais pas comment on vérifie Ah, je vais faire clore le sondage. 421 votes pour savoir si le son est bon ou pas. Alors, je l'ai clos, mais où est-ce que je vois le résultat maintenant? Zut, non. Ah. Je peux pas clore le son. Je voudrais juste voir les résultats du sondage. Je sais pas comment on fait. C'est pas grave. Ouais, ben, renommée. Alors, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'avoir. On va faire un petit tour sur X. C'est d'avoir le. C'est d'avoir le. La réaction, quoi. La réaction des autres parties, quoi. Est-ce qu'Horizon va soutenir? Les Républicains vont soutenir? Sébastien Lecornu aurait déclaré: ceux qui entreront au gouvernement devront s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ils devront signer une déclaration sur l'honneur en disant qu'ils n'ont pas l'intention de se présenter au présidentiel. Ah, Marvin m'envoie le résultat du sondage. Apparemment, le son est bon à 64% et trop faible à 36%. Donc désolé, c'est les gens dont le son est trop faible qui ont un problème. Alors, Twitter. Qu'est-ce qu'on a sur Twitter? Est-ce que les gens ne sont pas contents sur Twitter? Parce que franchement, je l'avais déjà dit l'autre soir, donc je vais le redire maintenant. Quand j'avais entendu que Lecornu était renommé lundi après-midi. La première fois, c'était une provocation, la deuxième fois, c'est une insulte. Et je pense véritablement que c'est une insulte. J'attends de voir comment vont le prendre les partis, parce qu'en fait, c'est ça qui va tout dicter. De toute façon, la question, c'est: est-ce que les partis. Parce qu'il y a deux choses, en fait. Un, il y a la nomination de Lecornu. Comment les partis prennent ça? Est-ce que les partis décident. Ah, déclaration de. Ah, je l'ai raté. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français, à cette instabilité mauvaise pour l'image de la France et ses intérêts. C'est ce que dit Sébastien Lecornu. Il faut attendre ce que voient les partis de la nomination de Lecornu lui-même. Ensuite, il faut attendre de voir le gouvernement qui arrivera à mettre sur pied Lecornu. Est-ce que du coup Lecornu va essayer de refaire son gouvernement de la semaine dernière, mais sans Bruno Le Maire? Est-ce que ça, ce sera acceptable? Encore une fois, du coup, ça sera l'occasion de vérifier ce que j'ai dit sur la question des portes qui se sont fermées en raison de la crise. Mais j'ai du mal à imaginer que ça marche, quoi. Surtout que Lecornu, lui, il a dit qu'il ferait pas de 49-3. Ah, autre situation de Lecornu. J'accepte par devoir la mission qui m'est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l'année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. De toute façon, ça va poser une autre question. C'est que si jamais il arrive à trouver un budget, est-ce que derrière, on va partir sur la cabale Horizon pour essayer de faire démissionner Emmanuel Macron? Et sous quel motif arriverait-il à faire démissionner Emmanuel Macron? Parce que mine de rien, cette pression du budget-là ajoute énormément au scénario de départ d'Emmanuel Macron. Justement parce qu'il y a l'urgence qui oblige à faire des trucs. Et à faire des choix. Si un budget est trouvé, ça éloigne ça, et c'est ça en fait qui a permis à Bayrou de survivre pendant tout un semestre, c'est qu'en gros personne ne s'est posé la question du budget pendant les 6 premiers mois de l'année. Donc la question c'est: est-ce que c'est rejouable l'année prochaine, ça, à nouveau, de pendant les 6 premiers mois de l'année, de ne pas se poser la question du budget, sans avoir de. Parce que cette fois-ci, il est vraisemblable qu'aussitôt le budget adopté, si un budget était adopté, il y a une censure. Très honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, à ce stade, si je devais faire un pronostic sur la façon dont j'ai vu évaluer les choses, je pense que ça va sauter pour une raison ou pour une autre, en quelques jours, quoi. Je peux pas décrire plus. Mais a priori, si on suit la dégradation progressive, on devrait aller vers un blocage de ce genre. Très honnêtement. Je ne vois pas comment il pourrait arriver à faire passer son budget. 149,3 en plus, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de le voter. C'est long. Et pendant ce temps, le psychodrame va continuer, quoi. Je ne vois pas ce qu'il espère faire pour répondre aux préoccupations des Français d'ici là. Franchement. Franchement. Le cornu 2, pourquoi avoir attendu jusque-là en plus pour le faire? Est-ce que c'est le temps qu'il lui a fallu pour arriver à convaincre le cornu d'accepter? Parce qu'en gros, c'est ce qu'il avait décidé depuis hier, apparemment. Hein. Les journalistes disaient cet après-midi que, a priori, à la base, la réunion de cet après-midi s'était fait juste pour convaincre les gens qu'il avait bien fait de nommer le cornu, juste après leur fait. Ah, tous les dossiers évoqués pendant les consultations menées ces derniers jours seront ouverts au débat parlementaire. Les députés et sénateurs pourront assumer leurs responsabilités et les débats devront aller jusqu'au bout. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Parce que ça veut dire que le Parlement va jouer son rôle. Donc là, on reste sur l'idée qu'avait le cornu. La question, c'est quel va être le rôle d'Emmanuel Macron par-dessus ça? Parce que les dossiers évoqués, est-ce qu'il y aura les retraites ou pas dedans? Parce que apparemment, une bonne partie de la gauche tout à l'heure disait que s'il n'y avait pas de suspension de la réforme des retraites, ça serait la censure. Marine Le Pen, elle va censurer. Tiens, je vais essayer d'aller. Vous permettez 2 secondes. Je vais essayer d'aller jeter un œil. Directement sur certains comptes parce que en général et puis si vous voyez des j'essaie de me remettre le chat si vous voyez des choses qui passent sur Twitter je regardais sur le Telegram si vous m'avez envoyé des trucs. Vous êtes bien foutu de moi parce que je réagissais pas tout de suite, mais ouais, alors bon, non, pour l'instant, il n'y a que le tweet, vous avez envoyé que le tweet de Le Cornu. Est-ce qu'on a une réaction de Marine Le Pen? MLP officiel. Non. Son dernier tweet, c'est sur le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'on a quelque chose de qui on peut avoir fort? Parce que bon, Mélenchon, on se doute de ce qu'il va dire, alors je me précipite pas pour aller le chercher. Olivier Faure, est-ce qu'Olivier Faure dit quelque chose? Non. Les mecs doivent être sous le choc. À mon avis, ils vont être mais ulcérés à un niveau pas possible quoi. Les mecs qui se font à tout à l'heure, elle a carrément dit sur LCI, apparemment Marine Tondelier, elle s'est repostée sur X, donc elle l'assume. Tout ça va très mal se terminer, je ne pardonnerai jamais à Emmanuel Macron. Ah si, elle a fait un nouveau tweet. Elle a juste tweeté incroyable. Je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, ça y est, je vous le montre. Incroyable. C'est le tweet de. Le tweet de Marine Tondelier. Ça, c'est marrant. Les bras lui en tombent, visiblement. Les bras lui en tombent. Qui c'est qu'on peut aller chercher d'autre? Roussel, peut-être. Roussel, c'est un tweetos. Qu'est-ce qu'il dit, Roussel? Rien non plus. Lui non plus, il n'a pas tweeté depuis 3 heures. Il doit être en train de bouffer. Est-ce que Retailleau s'est excité? Retailleau, il s'excite vite, comme il démarre au quart de tour quand on lui met quelqu'un qui voulait pas dans son gouvernement. Non, il n'y a rien. Ils vont peut-être nous dire qu'il faut se. Vous savez, peut-être Wauquiez qui va expliquer que il va agir en responsabilité. C'est ça qu'il va dire, Wauquiez. C'est ça qu'il faut savoir faire. Non, on n'a rien de Wauquiez non plus. Voilà. C'est dingue cette histoire. Alors je regarde si vous avez dit autre chose. Bardel a dit qu'ils censureront immédiatement. Alors ça, c'est pas tellement une nouvelle. Je vais aller voir si ce qu'il a dit exactement. Désolé, hein, d'habitude j'essaie de maintenir le flux du discours, mais là, priorité au direct, comme on dit, et les informations ne m'arrivent pas directement par télépathie. Ah, Jordan Bardella, le gouvernement Le Cornu 2, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l'Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français. Le Rassemblement national censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir, dont l'unique raison d'être est la peur de la dissolution, c'est-à-dire du peuple. Oui, donc effectivement, ils veulent rester sur la dissolution. Méluche, on va quand même aller voir Méluche, on ne peut pas laisser Mélenchon de côté pour... Et je remets Mélenchon. 4 minutes, très bien, c'est ça. À chaque tour du manège, le pompon reste au même endroit. C'est con, ça me fait rire. Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule. Macron ne peut faire autre chose que du Macron. Ça, pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Qui c'est qu'on a d'autres? C'est qui parle pour le MoDem maintenant? C'est Fesneau? C'est pas Bayrou, parce que Bayrou... Bayrou, il est parti. Bayrou, c'est terminé. Est-ce que Marc Fesneau, il tweet, lui? Est-ce que c'est un tweetos, Marc Fesneau? Tout le monde, tous, ils tweetent normalement, non? Il y en a certains qui tweetent plus que d'autres. Il y en a qui tweetent eux-mêmes, et puis il y en a qui ont un community manager, je sais pas. Marc Fesneau, 39 000 abonnés, c'est quelqu'un d'autre qui doit tweeter pour lui. Non, il a rien... Il a rien... Non, il a rien mis. Il a rien mis. Est-ce que vous avez des tweets à me suggérer? Ou que vous auriez trouvé intéressant? N'hésitez pas, hein. Alors, ah oui, bon, alors ça, d'accord. Merci à, je sais pas qui c'est qui me l'a envoyé, qui envoie des trucs sur. Ah, c'est Martin. Donc, ah, attends. Ah non, ça y est, vous m'envoyez des trucs. Donc, le Marine Tondelier, bah, ça j'ai vu. L'ancien ministre Alain Madelin réagit au spectacle déplorable. Ça, Alain Madelin, j'aime bien, mais on s'en fout, c'est pas pertinent. Fabien Roussel, choix inacceptable. Encore, ce président est complètement coupé. Complément, non, c'est complètement, je suppose ce qu'il veut dire. Coupé du peuple. Avec ses amis, ce sont les mercenaires de la finance jusqu'au bout. Passons par les urnes. Passons-les par les urnes. Ouh, c'est petite, quand même, là, il y a un petit vocabulaire un peu séditieux, n'est-ce pas? Ça suggère passons-les par les armes. L'expression est chouette, est joliment trouvée, néanmoins. Mais c'est quand même voilà, ça évoque une petite violence. Alors, selon BFM TV, Little Think Tank, selon BFM TV, les parlementaires membres des Républicains se réuniront. Oh, putain, à chaque fois, il faut qu'ils se réunissent, quoi. Ils sont tellement pas d'accord entre eux, ils sont toujours obligés de se réunir pour savoir quel est le menu. Se réunant demain matin à 8h30 pour prendre le plat du jour, donc, avec Bruno Retailleau suite à la reconduction de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre. Ouais, ben ça c'est une non-information. Enfin, on s'en serait douté. Franchement, vous m'auriez demandé qu'est-ce qu'ils vont faire LR. Je vous aurais dit, à mon avis, ils vont faire une réunion. Coquerel, Éric Coquerel. Je remercie Terra qui me l'a envoyé. Nous l'avions dit, l'idée d'un gouvernement de gauche était un leurre et une illusion semée par Emmanuel Macron. Je ne sais même pas si c'est Emmanuel Macron qui a fait circuler le truc ou si c'est tout le monde s'est bercé d'illusions sur la question. Bref, je reprends. Sa démission est la seule solution. En même temps, c'est Coquerel qui le dit, non, hein. Il souhaite un gouvernement qui transmettra son budget Bayrou-Lecornu lundi à l'Assemblée. Nous déposerons donc une motion de censure dès lundi contre ce gouvernement qui sera nommé contre ce cirque. Et cette comédie. Alors, attendez, on va essayer de faire un petit compte sur les coalitions. Donc déjà, de base, on a le RN et LFI qui voteront la censure. Ça fait 194 sièges. Il en manque une centaine pour que le truc saute. Euh... On peut imaginer que les écologistes vont la voter, puisqu'ils n'étaient pas contents. Est-ce que Roussel, oui, passons-les par les urnes, oui, passons-les par les urnes, ça veut dire demander la dissolution. Donc, ils vont voter à censure. Il faudrait quand même voir ce que disent les socialistes, parce que, encore une fois, c'est d'eux que ça dépend. Je vois que. Alors. Éric Ciotti, bah, il dit censure, évidemment. Ah oui, j'ai oublié de le mettre. Censure, Éric Ciotti, voilà, 15. Il manque 20 sièges pour une petite censure. Est-ce qu'Horizon censurerait? Parce que là, c'est autre chose. C'est autre chose. Si Horizon décide de censurer, compliqué pour eux. C'est compliqué parce que ça fait enfoirer quand même, si Horizon censure. Parce que ils ont pas de. C'est très emmerdant pour Horizon. Parce qu'Horizon, en fait, ils n'ont pas tellement de motifs véritablement politiques valables de censurer un gouvernement le cornu, à part que Édouard Philippe veut virer Macron. Mais ça peut être un motif suffisant. Ça peut être un motif suffisant pour le voter. Alors, de toute façon, donc il y aurait une possibilité, il y aurait une possibilité qu'Horizon vote. Si Horizon vote la censure passe. Félicitations, vous avez une majorité de 198 sièges. En comptant RN, LFI, UDDPLR, ça c'est Ciotti, les écologistes, les communistes et Horizon. Sans les socialistes. Hein. Sans les socialistes, si Horizon vote la motion de censure, elle passe. Avec les socialistes, naturellement, elle passe encore plus. Et je vois pas, vu la gueule que faisaient Valot et Faure en sortant, je vois pas comment ils pourraient ne pas la voter. Sauf s'ils estiment que le fait qu'il n'y ait pas de 49-3 suffise. Mais jusqu'ici, ça leur suffisait pas. Si ça leur suffisait pas dimanche soir, je vois pas pourquoi ça leur suffirait maintenant. Et apparemment, le cornu ne dit rien sur les retraites. Apparemment, ils ont laissé tomber le truc de laisser tomber les retraites. Voyons, je vais refaire un tour du côté de Marine Tondelier pour voir si elle est sous assistance respiratoire maintenant et si elle a réussi à détailler un peu ou si elle reste. Non, elle reste sur son incroyable. Elle est pas bien là. Elle est pas bien. Alors. Donc, Wauquiez-Retailleau, c'est pas la peine d'espérer quelque chose. Si je vais voir sur Wauquiez, non, toujours rien, d'accord. Qui c'est qu'on peut avoir? C'est qui qui dirige le groupe Horizon? Je sais même pas. Qui c'est qui dirige le groupe Horizon au Parlement? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Quelqu'un qu'il faudrait surveiller? Parce que. On peut regarder si Édouard Philippe a tweeté quelque chose, mais je sais pas, il est fourbe lui, donc je le sens pas attaqué. Il a même pas dit en face à Emmanuel Macron pendant la réunion qu'il fallait qu'il démissionne. Alors que ça aurait été pas mal, ça aurait eu un petit côté hit de Mars, vous savez. Je suis sûr que s'il y en avait un qui s'était lancé pendant la réunion, qui lui avait dit il faut que vous démissionniez, je suis sûr qu'il y en aurait d'autres qui auraient emboîté le pas. Et ça aurait été un autre. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Pourquoi le dernier tweet que je vois d'Édouard Philippe, il a. Il date du 3 septembre. 6 juillet. Qu'est-ce que c'est ce bazar? 12 juin, 11 juin? Le mec ne tweete plus? Le mec, il a arrêté de tweeter il y a 3 mois, quoi. Ça y est. Qu'est-ce que c'est ça? À moins qu'il ait refait. Il a peut-être été bloqué à un moment. Il a fait un deuxième compte? Je sais pas. sais pas, ça serait marrant. Ça serait marrant. Est-ce que Marine Le Pen s'est prononcée directement? Elle a enfin dit quelque chose. Non, elle dit rien. Elle dirait elle doit dormir ou elle est en train de nourrir les chats, peut-être. Hein, je sais pas. Oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, hein, ça permet de bien stimuler l'algo. Ça fait plaisir. Je vais refaire un tour sur le Telegram pour voir si quelque chose a été dit. Ben, de toute façon, ouais, ça va. Ah, alors, il y a d'autres trucs. Little Think Tank. Manuel Bompard, le coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise, évoque un nouveau bras d'honneur aux Français. Clairement, là, pour le coup, je suis d'accord, c'est une insulte. Et je dis ça alors que j'aime bien le cornu. Hein. Je pense qu'il est sérieux, qu'il a fait un beau boulot aux armées, ça a l'air d'être un type carré et tout, d'accord. Mais voilà. Bon, Ciotti, ça je l'ai déjà dit, il a dit censure. Il a juste dit censure d'ailleurs, Ciotti. Tac. Il a... Alors. Alors, il y a ouais, Esteban qui envoie, il a fait une petite simulation lui aussi. Il me dit censure s'il y a LR et les écologistes. Oui, ça aussi. LR pourrait censurer. Avec le Rassemblement national, LFI. Est-ce qu'ils voudront le faire? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alerte info, c'est quoi ça? Ouvrir sur X. Oui, non, je crois pas. Ouais, ah, d'accord. Parce qu'il y avait une alerte info, Sébastien Lecornu aurait trouvé un accord avec le Parti Socialiste sur la réforme des retraites avec un accord de non-censure. Et BFM TV vient apparemment de dire que c'était pas le cas. Je vois pas comment ça aurait pu être. Mais si ça se trouve, attendez, on va faire une petite simu drôle. Ce qui est possible, hein. Attention, on va faire un truc qui est possible. On va prendre le RN, Ciotti, LFI, les écologistes, les communistes, les socialistes, Horizon et LR qui censure, quoi. 417 sièges, ça ferait. Imaginez une censure à plus de 400 sièges, ça serait assez magique, ça. Ça serait assez magique. Ah, il y a un mec qui est en train de s'exciter là. Sur BFM TV. En disant que. Ah, il dit censure. La censure n'est pas un mot tabou si le compte n'y est pas. Mais bon, c'est pas lui qui décide encore. Mais c'est. En même temps, je vais pas dire c'est extraordinaire. Encore une fois, vous savez, je raisonne souvent et je vous parle souvent de ça, que ce soit pour ça, que ce soit pour Trump, pour le Moyen-Orient, ce que vous voulez. Je vous parle souvent des données du problème. Et généralement, la solution du problème, ou la non-solution du problème, elle est dans les données du problème. Et le fait, les données du problème, là, c'est quoi? C'est que... Vous savez, ça me fait penser... C'était un enseignement que j'ai eu dans Le mystère de la chambre jaune de Rouletabille, en gros. Alors, on vous dit... C'est qu'en gros, s'il y a un truc qui était impossible... Ben, la plupart du temps, en général, c'est qu'en fait, ça s'est tout simplement pas passé et que l'explication est autre. Par exemple, si la victime était à l'intérieur d'une pièce fermée de l'intérieur et qu'elle a été frappée et battue par quelqu'un, et que vous dites c'est impossible parce que du coup la pièce était fermée de l'intérieur, comment elle aurait pu partir, etc. Et ben, la réponse est tout simplement que soit la victime s'est battue toute seule, soit que, vous voyez, mais qu'il n'y a eu personne à ce moment-là avec elle et qu'elle n'a pas été. Si c'est impossible, c'est que ça n'a pas eu lieu. Donc, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre solution que ça, et donc c'est ça qui a lieu. Il n'y a pas d'autre solution que de nommer Lecornu, il n'y en a aucun autre qui. En fait, je me demande même, j'en suis à ce point-là, je me demande même si Lecornu n'est pas tout simplement le seul mec qui, par amitié pour Emmanuel Macron, par loyauté, je sais pas, est prêt à y aller, juste parce qu'il le dit d'ailleurs lui-même, il dit par devoir. C'est peut-être le seul mec de France qui est d'accord pour devenir Premier ministre dans ces circonstances. Peut-être ça, en fait. Et donc, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, et s'il se fait censurer, il reste plus personne. Et le truc, c'est que je pense qu'on est arrivé dans cette situation, ce que je disais tout à l'heure, hein, mais bon, on en aura peut-être la démonstration, qui est qu'il est devenu tout simplement impossible de nommer un gouvernement qui soit viable. Donc, le RN va censurer Sébastien Lecornu, bah ça on le savait, on nous l'avait déjà dit. Mais on arrive vraiment en bout de... Et alors, je continue de penser malgré tout, je continue de penser malgré tout, d'accord, c'était une blague. Le GIGN serait actuellement sur le perron de l'Élysée. Deux hommes refuseraient d'en sortir et menaceraient de tout faire sauter. D'accord, c'est une blague. Je pense que la question de la réforme constitutionnelle se posera, de toute façon, après le départ d'Emmanuel Macron. Il en était énormément question cet après-midi sur les plateaux de télévision. Ils en parlaient en disant que c'est un problème parce que tout le monde s'aperçoit que c'est le fait que, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, de toute façon, je ne vais pas me répéter 200 fois, c'est que le président de la République, étant de facto le vrai chef du gouvernement, ben, il y a un moment, à partir du moment où on ne peut pas censurer le président de la République, ben, ça ne va pas. Et j'ai envie de dire, j'insiste là-dessus, excusez-moi, mais c'est véritablement le cœur de mon raisonnement. depuis le début, depuis les premiers articles que j'ai écrits dessus en avril 2025, en plein confinement, en avril 2020, pardon. Et ce point de vue, c'était, ça crée un déséquilibre majeur dans le système qui fait qu'il y a un moment où ça va sauter, ça ne fonctionnera pas. Parce que, tout simplement, c'est ce qui caractérise normalement un état en phase absolutiste. La confusion entre le fait d'être le chef de l'État et le fait d'être le chef du gouvernement, c'est typiquement ce qui caractérise un régime pré-parlementaire. Et la mutation parlementaire, c'est exactement le fait de casser ça. Et comme la mutation parlementaire se fait au cours des révolutions nationales, j'en avais conclu que la France allait connaître une nouvelle révolution nationale puisqu'elle était historiquement revenue en arrière au plan institutionnel. Bien. Sur le plan, pardon, institutionnel. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je rappelle que ce qui, le dernier élément avant la chute, si vous voulez, de l'Empire allemand, c'est que tout d'un coup, le Premier ministre n'est plus responsable devant le Kaiser, mais devant le Reichstag. Alors ça, pour moi, c'est une mutation qui a déjà eu lieu chez nous. Pour moi, ça a eu lieu avec la censure de Barnier. Première censure en 60 ans, le Parlement reprend le contrôle du gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement possible sans l'appui du Parlement. Alors, virtuellement, il n'y en avait jamais eu, mais comme il y avait toujours des majorités, la question ne se posait pas. Donc, ça peut être également assimilable, et je vous l'avais déjà dit, ça peut être ça qu'on peut assimiler, peut-être, au serment du jeu de paume, sous la Révolution française, c'est-à-dire le moment où l'Assemblée nationale, les États généraux se déclarent Assemblée nationale, et donc disent, c'est nous qui sommes souverains face au roi. Ça ne veut pas dire qu'on est tout puissant, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on est forcément capable de gouverner, mais néanmoins, c'est à nous, c'est plus le roi qui a ce pouvoir-là. Et en fait, depuis la censure de Barnier, c'était déjà le cas avant, mais ça avait été provoqué par la dissolution anticipée d'Emmanuel Macron, mais ça aurait dû commencer, normalement, si Macron n'avait pas fait la dissolution, ce que j'ai déjà dit, ça aurait dû commencer par une censure qui avait été annoncée par Larcher, votée par LR sur le budget. Ça aurait dû commencer par ça. Ensuite, il y aurait probablement eu la première dissolution. Bon, elle a eu lieu plus tôt, mais ça aurait donné la même chose en fait. Vous aurez recalé. Je pense qu'aujourd'hui, on en serait exactement au même point si Emmanuel Macron n'avait pas dissous en juin l'année dernière. Je pense qu'il y aurait eu une motion de censure en septembre-octobre, en octobre plus précisément. Il y aurait eu une dissolution, je pense, et on se serait retrouvé avec le Parlement qu'on a maintenant. Probablement en janvier ou peut-être février ou peut-être en mars, hein, peut-être voilà, en mars dernier, on se retrouvait avec ce Parlement-là. Et ensuite, aurait enchaîné la crise avec le nouveau budget à trouver, et aujourd'hui, on se retrouverait dans la même situation qu'on aurait été de toute façon. Le moment important, c'est le moment où le Parlement a repris le droit d'être d'accord avec le président de la République sur le gouvernement ou pas. Sur l'autorité du Premier ministre. Et depuis, on est dans la phase de transition que ben, vous avez pendant la Révolution française entre 1789 et 1792, c'était long, où on chasse le roi. Et où le roi essaie de retenir une partie de son pouvoir au cours du temps. Donc là, nous, ça fait un an et demi que ça dure. Et encore une fois, si vous reprenez, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, historiquement, ce que j'explique, et c'est pour ça que c'est pas du tout facile de donner des dates, encore une fois, parce qu'il y a de la contingence, mais vous voyez bien là, le mouvement de trajectoire. Si vous reprenez ce que je vous disais l'année dernière, vous savez, il y a une des choses que j'explique dans la structure de l'histoire, dans la manière dont fonctionne l'histoire. Il y a trois lois de l'histoire que je décris et où j'explique que ça fonctionne, ce qui est normal parce que enfin, ça, je ne l'avais pas compris à l'époque, mais c'est lié à des phénomènes d'émergence. Mais c'est que vous avez des situations qui évoluent profondément, généralement dans le sens de leurs caractéristiques fondamentales, et qu'il y a un moment où il y a une mutation qui est nécessaire, mais que cette mutation ne peut avoir lieu que si un certain événement advient. Par exemple, le déclenchement de la révolution, mais qui est un phénomène institutionnel qui ne concerne, au fond, qu'une petite partie d'acteurs. Et donc, moins vous avez d'acteurs qui sont. Plus, si vous voulez, le mouvement, comme c'est un mouvement global, il exerce une pression de plus en plus importante sur le petit nombre des acteurs qui doivent jouer. Mais néanmoins, le petit nombre des acteurs reste un nombre d'acteurs limité en tout cas. Et donc, le hasard est important à ce niveau-là. Et ça concerne quelques centaines de personnes, qui sont en l'occurrence les parlementaires. Donc, je vous disais. Et encore une fois, comme les caractéristiques, si vous voulez, ce que j'appelle les caractéristiques fondamentales, ne font que se renforcer jusqu'à la chute, jusqu'à la rupture, la probabilité que l'événement qui permet la chute advienne augmente au cours du temps, continuellement. Et donc, il était beaucoup plus. Aujourd'hui, il est très, 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 très. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une loi log périodique, en fait, c'est une autre expression de ça. Il est extrêmement vraisemblable qu'il y ait une censure, très rapidement. Si on remonte dans le temps, elle était de moins en moins vraisemblable. Il y a une époque à laquelle elle était totalement invraisemblable. La première censure qui aurait pu se produire véritablement, vous en souviendrez, c'est celle qui n'est pas passée, mais de peu, d'une moins d'une dizaine de voix, en mars 2023, sur la réforme des retraites. La deuxième, celle qui serait quasiment sûrement passée parce que Larcher l'avait annoncé, serait été en automne dernier. Et là, je reviens sur ce que je viens de vous expliquer. C'est qu'on serait retrouvé au même moment. Mais on se serait peut-être retrouvé à peu près à la même situation aussi si la motion de censure était passée encore un an plus tôt, en mars 2023. Cette fameuse motion de censure était passée sur la réforme des retraites. D'accord? Vous auriez eu une chute du gouvernement. Mais la différence qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas encore l'urgence sur le budget. L'urgence sur le budget, si vous vous souvenez bien, on l'a vu apparaître courant 2024. Donc c'est pas dit qu'il y aurait eu tout de suite, même s'il y avait eu cette motion de censure, qu'il y aurait eu tout de suite le blocage tel qu'on l'a vu. Parce que le blocage tel qu'on l'a vu, il vient non seulement de la détérioration de la situation politique, mais de l'urgence budgétaire qui est là aussi. C'est l'urgence budgétaire qui, l'année dernière, aurait dû déclencher, sinon, la motion de censure Larcher. On va l'appeler comme ça. Donc vous voyez que de toute façon, on va dans le même sens et que les choses auraient pu se passer plus tôt. Et cette idée, notamment, on va dire, comment dire, du serment du jeu de pommes, c'est-à-dire le moment où le Parlement reprend ses droits sur le gouvernement, en fait, ça aurait pu arriver l'année dernière, ça aurait pu aussi arriver en mars 2023. Ça n'aurait pas pu arriver avant. Pourquoi ça n'aurait pas pu arriver avant? Tout simplement parce que si vous remontez avant 2022, mai 2022, il y a majorité absolue pour le parti présidentiel. Donc il n'y avait pas de motion de censure possible. La motion de censure, elle apparaît possible à partir du moment où vous avez la transformation de majorité relative. Et ça, c'est après l'élection présidentielle et l'élection législative de 2022. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça devenait possible. Comprenez? Donc virtuellement, en fait, le pouvoir sur le gouvernement, par la motion de censure, aurait pu être arraché par le Parlement, sur le gouvernement, par exemple, aurait pu être arraché par le Parlement à partir de mars 2023. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on serait à 2 ans et demi après ça. Bon, bah, si vous prenez Louis XVI, 2 ans et demi après, il était toujours là, d'accord? Il a mis un mois à partir. Pour le Kaiser, ça a été plus rapide, mais bon, ils étaient en fin de guerre, qu'ils étaient en train de perdre. Les Alliés exigeaient la démission du Kaiser, donc il y avait une pression extérieure. Pour l'instant, il n'y a pas de pression extérieure sur Macron. La pression est purement endogène. Et quand la pression est purement endogène et qu'il n'y a pas de force extérieure qui vient vous aider à pousser votre monarque dehors, ben forcément, c'est plus compliqué. Ça demande plus de temps, ça demande plus de dégénérescence encore au niveau des institutions. Et donc historionomiquement, tout ça, c'est très intéressant. Ça vous montre à quel point c'est difficile de prévoir le moment, d'accord? Mais ça vous montre aussi à quel point la tendance de fond est toujours pareille. Donc vous avez une tendance qui est linéaire, qui vous amène vers un certain point. Vous pouvez avoir sur cette tendance des allées et des retours qui, si vous n'avez pas de modèle interprétatif, vous donnent l'impression que c'est un pur chaos, alors qu'en fait, non. Ouais. Et c'est comme ça que pour moi, l'application de la loi log périodique, finalement, se montre. Et j'ai le sentiment qu'on s'approche de plus en plus vers le moment où ça devient totalement intenable pour une survie politique de la présidence de la République. Alors on va aller voir sur. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va aller voir sur. Je retourne sur Telegram où vous continuez de m'envoyer des choses, je vous en remercie. Marine Le Pen a tweeté, enfin. La manœuvre est aujourd'hui transparente. L'abandon du 49-3 n'avait pour seul objectif que de permettre de passer le budget par ordonnance. Les manœuvres continuent, la censure par conséquent s'impose et la dissolution est plus que jamais incontournable. Alors pourquoi l'abandon du 49-3 permet de passer le budget par ordonnance? Je suppose parce que ça amènerait au-delà des dates butoirs et qu'à partir de là, le gouvernement peut le faire. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Brisson, elle, je sais pas, oui, mais elle commente, mais c'est pas une, c'est pas, elle n'a pas d'autorité. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont une certaine autorité, en tout cas, dont on peut considérer que leurs paroles engagent leur camp. Lui, par exemple, Pierre-Indy Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, sur Emmanuel Macron qui nomme Sébastien Lecornu à Matignon, 4 jours après sa démission, c'est le Premier ministre nommé malgré lui. Oui, bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors bon, on m'envoie aussi des extraits, mais je peux pas les. Il dit quoi, Irma, l'extrait que t'as envoyé là de la journaliste BFM TV, parce que je peux pas la lire, je peux pas l'écouter là, sinon ça va. David Linard. Les gens disent Lisnard, moi je dis Linard. Alors peut-être qu'il faut dire Lisnard, mais j'estime qu'en bon français en général, quand vous avez un S comme ça, en général il est muet normalement. Hein. Vous dites pas Mesnard, vous dites pas. Voilà. Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu car il ne peut se nommer lui-même, ce qui est vrai. Tout cela est à la fois grotesque et dangereux, la provocation de trop. Le chef de l'État joue à un jeu antidémocratique très périlleux pour notre pays qu'il a lui-même déclassé à tous les niveaux. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, encore une fois, chez des gens qui étaient polis, le discours se radicalise. Je continue, il refuse une réalité qu'il est le seul à ne pouvoir regarder en face. Il est impensable de prendre part à cette pantalonnade. L'urgence est de reconstruire une alternative forte et crédible. Alors, Alain Menck, c'est le pire des présidents de la Ve République, il n'est pas fou et narcissique. Eh oui, mais c'est toi qui nous l'as vendu aussi, une espèce d'abruti. Les LR applaudissent cette nomination par l'intermédiaire de Vincent Jeanbrun. Qu'est-ce qu'il dit Vincent Jeanbrun? En renommant Sébastien Lecornu, le président de la République donne une chance à la stabilité. Oh putain, la stabilité. La stabilité. C'est intéressant d'ailleurs, Marine Tondelier tout à l'heure disait que Macron avait essayé de leur vendre encore une fois cette fable de la stabilité. Mais pour le coup, j'étais tout à fait d'accord. C'est une fable la stabilité, c'est pas de la stabilité qu'on a besoin. Simplement, ouais. Le Premier ministre doit maintenant bâtir un compromis pour doter la France d'un budget, c'est notre première urgence, elle est vitale, tous les parlementaires doivent être à la hauteur. Alors, ok. Alors, ensuite, est-ce que nous avons remarqué si ça tue le parti des Républicains, ça serait logique. Encore une fois, je renvoie à ce que j'avais dit l'année dernière quand j'avais fait le live sur la scission des Républicains autour du coup d'État de Ciotti. Par définition, les républicains, c'est le parti du régime. Donc il y a un moment où ce serait normal qu'ils crèvent avec le régime. En simple pour la vidéo, le PS ne censurera pas immédiatement, elle attend l'annonce du gouvernement. D'accord. Bah, en même temps, en même temps, on ne peut pas censurer tant qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est un gouvernement qu'on censure, on peut pas censurer juste le Premier ministre. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas un gros risque de dire ça. Vous dites, on verra si, enfin, c'est pas, ça permet d'avoir l'air raisonnable à bon compte, si vous voulez, de dire, on censure pas, on attend de voir quel gouvernement, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas censurer avant quel gouvernement. Donc, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut pas forcément dire grand-chose. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses? Non. Bon, bah écoutez, moi je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dans le cadre du live public. Je pense que nous allons aller nous retrouver dans celui du live privé. Je regarde juste ce que m'a envoyé Marvin au niveau des. Parce qu'il y a peut-être des questions d'ondes, d'ailleurs, je n'ai pas posé de questions. On remercie Sigurd, bienvenue, qui nous rejoint dans les compagnons Historionum. Merci beaucoup. Grâce à sa souscription, il aura accès au canal Telegram et au catalogue des vidéos, je rappelle. Lucien Furquette. Le cornu, bordel, Philippe. Merci pour le don. Et oui, effectivement. Sativa. Alors, je ne sais pas dans quelle monnaie c'est, mais merci pour le don. Enfin, il a compris. Alors, je ne sais pas si c'était moi à propos du fait que le cornu était renommé. C'est possible. Philippe Edes, Fabridakis, merci pour le don. Avant, les premiers ministres devaient donner une lettre de démission avant d'être nommés. Sous Macron, ils doivent signer le prochain CDD avant de démissionner. Oui, c'est peut-être comme ça. Alors, je pense toujours que c'est une. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vrai, cette histoire de la lettre. Mais la blague est valide, puisqu'effectivement. Il semble que le cornu ait été forcé de rester. Donc ensuite, tu m'as envoyé comment ça c'était vrai. Nous avons David qui nous a rejoint dans Frères Historionom, bienvenue et merci. Et Tovarich Contois, bienvenue dans Compagnon Historionom, merci beaucoup de l'arrivée. Je vais voir s'il y en a d'autres ou si on a eu des messages sur Tipeee, n'est-ce pas? Puisqu'il faut aller jusqu'au bout. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir également en achetant les livres, hein, ce qui est le meilleur moyen. Je suis toujours persuadé, même si nous revenons dans une culture de l'oralité comment ça s'appelle? Avec YouTube et avec les formats de ce vidéo, je suis meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Et pour bien comprendre toutes les subtilités de l'historionomie, les modèles sur lesquels je me base, etc. Il vaut mieux aller voir les livres. Bien sûr, si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez mes travaux, le mieux c'est d'aller regarder la petite liste des essentiels. Je rappelle que la grande liste des essentiels, où il y a une soixantaine de vidéos, est accessible pour ceux qui ont le premier palier de souscription. Mais vous avez une liste compacte d'une petite dizaine de vidéos où vous avez les bases d'un certain nombre de choses que je raconte. Et notamment la vidéo consacrée à la nouvelle révolution française. Alors, et les livres, ils sont tous trouvables sur Amazon, c'est très facile. Je regarde sur dans les mails Tipeee pour voir si j'ai eu des messages. J'essaie de répondre. On a un petit souci sur le Telegram. Il faut que je retrouve le lien parce que je crois qu'il avait changé. Effectivement, vous êtes plusieurs à vous être plaints du fait que vous trouviez pas l'accès au Telegram via le Tipeee. On va corriger ça. On va vous le redonner. Alors, nous avons eu hier soir un type de DR ou docteur qui me disait: Bonsoir, c'est la révolution, on va changer plein de choses au système. Imaginez qu'on vous sollicite pour concevoir les nouveaux cours d'histoire enseignés à l'école. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous commencez le cours directement par l'historionomie? Si oui, à votre avis, quel impact cela aurait sur la société si vos cours sont enseignés pendant des années, disons 20 ans, dans le nouveau régime? C'est une excellente question. Encore faut-il que tout le monde y croit et que tout le monde le comprenne correctement. Par contre, ne serait-ce que sur la pédagogie de l'histoire, l'historionomie est un formidable outil de compression des données. Puisqu'une fois que vous avez compris comment fonctionne une révolution nationale, vous pouvez les apprendre toutes et ça va relativement vite. Donc le fait d'avoir des modèles, ça doit aider énormément. Donc j'adorerais participer à une mutation, en tout cas, de l'enseignement de l'histoire. Jean-Michel, bonjour, veuillez trouver cette modeste contribution pour votre travail et la qualité de votre travail. Bonne soirée cordialement, merci beaucoup. Et Karim, bonsoir. Cette semaine avec Live Exceptionnel, vous avez déclaré que l'Union européenne va arriver en impérialisme revanchard et situer son impérialisme initial vers 2004. Quel événement prenez-vous comme fin d'impérialisme initial? Merci pour le live. Alors, c'est difficile de parler d'une fin de l'impérialisme initial. Normalement, l'impérialisme initial, il se termine avec la Révolution nationale. Mais la dernière grande étape, en général, a lieu quelques décennies avant la fin, une quarantaine d'années en général. Là, la grande étape de l'impérialisme initial, c'est la victoire contre l'URSS, qui libère en fait tout un espace d'hégémonie pour l'Union européenne en Europe de l'Est, qui lui était fermé jusque-là. Donc c'est ça, pour moi, la césure importante à ce niveau-là. Et je vous rappelle bien sûr que si jamais vous voulez nous soutenir, vous n'êtes pas du tout obligé de souscrire au palier, vous pouvez aller faire des tout petits dons sur Tipeee. Les petits ruisseaux font les grands fleuves, comme on dit. Voilà, je rappelle aussi que il y a qu'à peu près 10% des gens qui regardent la totalité du contenu disponible qui nous font des dons. Donc si vous voulez que ça continue, ben, n'hésitez pas à participer en venant vous aussi faire un petit don pour montrer que, ben, que vous êtes là et que vous valorisez ça. Et je suppose que vous êtes, si vous êtes là tout le temps, c'est que vous le valorisez. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je pense, alors je fais un dernier petit tour sur les actus, si j'ai un truc à commenter avant de partir répondre aux questions de nos chers souscripteurs dans le live privé des abonnés. Je ne vois rien. Alors écoutez, je vais rejoindre nos chers souscripteurs dans le live privé. À tous les autres, je dis, n'hésitez pas à mettre des pouces si vous ne les avez pas encore mis, c'est très important. N'hésitez pas aussi et en plus à lâcher un petit commentaire, c'est excellent pour l'engagement et donc le référencement de la vidéo et donc faire venir des gens. N'hésitez pas aussi, c'est un truc que je dis, que j'ai pas dit depuis longtemps, n'hésitez pas, et comme vous êtes désormais plus nombreux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont peut-être jamais fait, n'hésitez pas tout simplement à partager mon contenu sur vos réseaux sociaux en disant que ça vous a plu, hein, si ça vous a plu, si vous ne partagez pas, mais je pense que si vous faites la démarche de le partager, c'est que ça vous a plu. Donc dites que ça vous a plu, essayez d'aider à diffuser l'histoire renommée aussi pour permettre à des gens de venir aussi et s'abonner, c'est de plus en plus dur encore une fois de développer, donc... votre aide sera la bienvenue et vous pouvez aussi nous aider comme ça. C'est aussi un don de temps important si vous faites tout ça à chaque fois, pousser, référencer, partager. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Il y aura peut-être d'occasion de faire d'autres lives spéciales d'ailleurs dans la semaine qui vient en fonction de l'actualité. Et je pense qu'il y aura de l'actualité. Peut-être d'ailleurs rien que lundi avec le dépôt du budget. On verra ça. En tout cas, d'ici là, surtout, vous laissez pas faire.